Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les pieds sur terre, rediffs estivales, c'est maintenant toute cette semaine. À quoi ressemble le dernier jour? Aujourd'hui, c'est la dernière tournée dans le service jusqu'à 15h à l'Hôtel Dieu, le dernier jour d'un grand médecin.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Tu te souviens de comment s'appelait cette dame? On avait été appelé par le service d'hématologie pour une dame qui avait une leucémie et qui était dans le coma. Et les soignants se demandaient pourquoi elle ne mourait pas. Parce que ça durait déjà depuis plusieurs jours. Et donc ils s'inquiétaient de savoir pourquoi sa fin de vie durait comme ça. Et en général, quand les gens sont dans le coma et qu'on sait qu'ils vont mourir, ça provoque beaucoup d'anxiété chez les soignants. Hein, voilà. Et donc, je rentre dans la chambre accompagné de Julia. Et qu'est-ce que j'observe dans la chambre? Elle avait mis, la patiente, quand elle était consciente, qu'elle était hospitalisée, elle avait mis des photos de chiens. Il y en avait partout. Il y avait une vingtaine de photos de chiens et il y avait deux chiens en peluche sur un fauteuil. Et je dis, mais pourquoi il y a tant de chiens? Et l'infirmière me répond, mais parce qu'elle aimait les chiens, c'était important, elle a toute sa vie, les chiens, ça a été... Ben, je dis, écoutez, c'est pas compliqué, elle peut pas s'en aller si elle a pas ses chiens. Et je prends les deux ours en peluche et je vais les garer contre ses épaules, là, les deux, comme ça. Et à ce moment-là, elle meurt. Et Julia s'effondre en larmes.
Je me souviens, j'étais là.
Julia s'effondre en larmes, disant « Vous l'avez tuée !» Mais j'ai dit non. J'ai dit non, elle ne pouvait pas partir sans ses chiens.
Il a fait le même trajet, pris les mêmes couloirs, regardé les mêmes détails dans l'ascenseur. Il s'est fait les mêmes réflexions sur les peintures écaillées au mur et les collègues d'en dessous. Et il a lutté contre bien des tabous et bien des ignorances. Chaque année, il s'est inquiété encore un peu plus des différentes réformes qui ont transformé les services de santé de l'hôpital en entreprises destinées à être rentables. Bien sûr, chaque jour a été aussi différent et pas pareil, surtout le premier dont il se souvient toujours. Et aujourd'hui, le dernier, la dernière fois qu'il prendra l'escalier et arpentera les galeries en regardant le joli jardin intérieur de l'hôpital. Il s'appelle Jean-Michel, il a travaillé exactement 21 ans au service de soins palliatifs de l'Hôtel Dieu à Paris, qu'il a créé en 1989, une des premières unités de ce genre à apparaître en France. Pendant tout ce temps, il a aidé à mourir des milliers de personnes, il a ri, il a pleuré avec des soignants pour apprivoiser la mort. Il en connaît maintenant un morceau sur les derniers instants, les ultimes lueurs de la vie. Et voici que c'est à son tour, mais seulement pour son dernier jour à l'hôpital. C'est jusqu'à 15h sur France Culture, les pieds sur terre, quartier d'été. À quoi ressemble le dernier jour? Un reportage d'Amaury Chardot, réalisé par Lionel Quentin.
Bonjour, docteur Lassonnière.
Ça va, bonjour. Vous connaissez l'Hôtel Dieu, je suppose. L'Hôtel Dieu est le plus vieil hôpital de Paris, qui date du Moyen-Âge. Le bâtiment ici a été reconstruit en 1870, à peu près dans sa forme actuelle. Donc c'est un magnifique monument. Moi, je suis arrivé dans cet hôpital, c'était un lundi 4 septembre 1989. C'était la date de création, de l'ouverture de la structure, dont l'objectif était d'aller aider les équipes soignantes qui prenaient en charge les malades les plus graves et qui allaient mourir. Je venais de la province de Bourgogne, où j'ai exercé pendant 15 ans la profession d'anesthésiste réanimateur. Et j'arrive dans cet hôpital mythique. Donc je laisse ma famille, j'arrive, j'avais rien, quoi. Il fallait que je trouve un appartement à Paris. Mais à l'époque, j'étais fortement stimulé par le projet. C'était extraordinaire d'être au démarrage d'une expérience.
Et donc, 21 ans plus tard, aujourd'hui, Alors, c'est un genre un peu spécial.
Bah oui, c'est un genre spécial. C'est mon dernier jour dans cet hôpital. Donc à la fois, les murs n'ont pas bougé, mais les personnes qui y travaillent, beaucoup de gens sont passés dans cet hôpital. Donc il y a des têtes que je reconnais, puis il y a des têtes nouvelles. Et il y a des gens qui ne me connaissent pas, par exemple. Ça fait très drôle. C'est un hôpital que j'aime parce qu'il est, il est beau. Il est beau et je vais le quitter, je le quitte, quoi. Mais bon, je dirais que dans mon métier, j'ai accompagné des centaines et des centaines de patients qui eux aussi se préparaient au grand départ, hein, qui était la mort. Et donc je suis un peu dans cette rupture. C'est là, maintenant. Il faut que j'envisage l'avenir sans cet hôpital.
Bon, alors la dernière matinée, qu'est-ce que vous allez faire ?
On va monter dans le service. Et puis, je vais faire le point avec le reste de l'équipe. Il n'y a plus grand monde, puisque depuis à peu près 5-6 ans, les postes des soignants qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Donc l'équipe a été diminuée en nombre de 50%. Et puis là, le reste de l'équipe est en train d'essayer de chercher un autre poste. Il faut qu'on prenne l'ascenseur, donc ils font des travaux. Pardon. Voilà. Je vous présente Julia, médecin dans l'équipe.
Bonjour.
La cadre.
Bonjour,
et notre bénévole, la plus âgée.
La plus âgée.
Et puis surtout,
la plus ancienne.
La plus ancienne. Donc ça, c'est notre petit coin discussion du matin, café, échange. Le bureau des bénévoles est en face. Endroit stratégique parce qu'elles reçoivent les coups de téléphone des services.
Les gens qui passent,
des demandes de rendez-vous. Des appels pour des patients en salle à aller voir.
Voilà. Je viens d'avoir M. Adra,
oui, d'accord,
qui m'a parlé de,
ouais,
l'écoute, ce que vous lui accordez.
Ouais.
Il ne sait plus quoi faire. Hein. Bon.
Alors, un des soucis que j'ai, c'est que j'ai quelques patients, et ce monsieur a une insuffisance respiratoire à un stade très avancé, il a un antécédent de cancer du poumon, et je n'arrive pas à trouver un médecin traitant qui accepte de reprendre la main.
Parce que lui, il m'a dit il voudrait, à cause de ses douleurs de dos, que les médecins viennent chez lui. Or, tous les généralistes actuellement ne peuvent plus.
C'est ça.
Et donc, ça, il est désespéré, mais je lui ai dit, écoutez, monsieur, bon. Je suis Françoise, je suis venue quand j'ai pris ma retraite. Mais j'avais jamais imaginé que je viendrais dans un hôpital m'occuper des mourants. Et puis ça s'est fait par des rencontres diverses et variées. J'ai abouti ici et je m'y suis sentie bien et j'y ai appris énormément. Comme je vous avais dit, Jean-Michel, si on a pu accompagner papa de la façon dont on l'a accompagné, c'était grâce à l'expérience que j'avais avec vous.
Alors, qu'est-ce que vous allez devenir ?
Il y a des chances qu'on s'arrête. Hein. Enfin, moi, personnellement, au bout de 20 ans, j'ai envie d'arrêter un peu. Je ne me sens pas capable de me réinvestir dans un nouveau service de soins palliatifs.
Donc, en fait, le service, c'est tout ça. Ici, c'est le coin des infirmiers. C'est ici que nous avons nos dossiers. Vous voyez tous nos dossiers. En vert, ce sont les patients qui viennent pour des douleurs chroniques. Et en bleu, les patients qui ont un cancer en phase avancée. Donc vous remarquerez qu'il y a beaucoup moins de dossiers bleus que de dossiers verts, pour la simple bonne raison que la plupart des patients qui sont atteints de cancer vont décéder dans les semaines qui suivent notre première visite, parce que c'est pour cela qu'on nous appelle, parce qu'on est dans un processus de fin de vie. Et dans les années 80, on se rendait compte que la médecine était surtout intéressée par le diagnostic et le traitement des maladies. Et donc les patients qui ne pouvaient pas guérir de leur maladie, et ça je l'ai vu de mes yeux, étaient alors abandonnés. C'est-à-dire que les médecins n'avaient pas la formation pour... ils ne savaient pas quoi faire vis-à-vis de ces patients qui allaient mourir. Et leur prise en charge reposait essentiellement sur les infirmières. Donc j'étais jeune médecin et j'ai observé ces situations de malades réellement abandonnés, abandonnés à leur sort, c'est-à-dire qu'on ne leur parlait plus, abandonnés à leurs douleurs, on ne traitait pas les douleurs à l'époque. Les familles étaient informées sur le pronostic désastreux de la maladie. Quant au patient, lui, il n'avait aucune information. Ou alors on lui racontait que ça allait s'améliorer. Et donc moi je suis issu de la génération 68. J'ai commencé mes études de médecine en 1967. Et en première année de médecine, j'ai vécu les événements de 68. Et ça a déclenché chez moi un déclic très important. J'étais jusque-là un étudiant extrêmement timide et extrêmement obéissant. Et là, en 68, je reçois en plein visage cette notion de critique de l'autorité. On peut critiquer l'autorité. L'autorité n'est pas toute puissante. Et donc, ça a provoqué chez moi un esprit critique. Je vais vous donner un exemple. En service de chirurgie, dans les années 70-71, le samedi matin, dans un amphithéâtre, on présentait des malades qui arrivaient en pyjama, hein, on les déshabillait, on les examinait, il y avait leur radio, et moi, j'étais effaré de voir qu'un médecin pouvait se comporter de la sorte. Or, toute la médecine s'est construite sur la présentation des malades. Et donc on arrivait vraiment, après 68, à un changement radical des mentalités. C'est évident, on ne pouvait plus supporter cette présentation des malades. Donc j'ai commencé à inscrire dans mon esprit qu'un bon médecin ne peut pas se comporter de la sorte. Oui, Julia ?
Oui, c'est bon. Vous connaissez Philippe Ousmane ?
Oui.
Il est décédé.
Oh !
Oui. Il est décédé hier, avant-hier. Très jeune.
Ben je sais, il avait un cancer de l'estomac il avait un cancer de l'estomac depuis quelques années.
Et donc il va être enterré, il y a une messe dans deux jours à Melun.
Oui, mais je le connaissais très 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 bien.
Oui, c'est hier que je l'ai su. Pardon, monsieur, mais j'allais oublier.
Tu sais qu'il a adopté trois enfants. Trois enfants handicapés. Oui, oh là là. Oh. Bah oui, ça va être compliqué pour son épouse, ça c'est sûr.
Avec moi, avec Monsieur D.
Je vais dire au revoir en oncologie. Je vais aller saluer.
Et alors, vous avez déjà fait votre pot de départ ?
J'ai fait un petit pot la semaine dernière, oui, mais très intime, que les membres de l'équipe. Habituellement, il y a des pots qui réunissent l'ensemble des soignantes d'un hôpital. J'avais pas le cœur à ça, tout simplement parce que je trouve que l'hôpital actuellement vit des difficultés et connaît des difficultés quant à son avenir. Je trouve que les esprits sont plutôt tristes. On n'a pas envie de faire la fête quoi, en ce moment, dans l'hôpital public, voilà. J'ai pas envie de faire la fête en ce moment. Alors ça, c'est l'allée du quatrième étage. Alors autrefois, on sortait les malades qui prenaient le soleil. Ça leur permettait de prendre des couleurs, d'aller mieux.
Et ça n'arrive plus ?
Et non. Alors ça nous est arrivé de temps en temps de sortir des malades... Qui était hospitalisé en pneumologie ou en oncologie et qui avait envie de prendre l'air. Donc effectivement, ça nous arrivait de sortir le lit, de sortir le fauteuil pour voir une dernière fois le jardin. Et ça ne se fait pas suffisamment malheureusement. Je pense qu'il y a des problèmes de manque de personnel qui compliquent un peu tout ça. Et donc, quand je changeais d'aile, je passe à chaque fois devant la chapelle qui est là, avec le bureau de l'aumônier. Et régulièrement, l'après-midi, il y y a la messe qui est dite en même temps. Et donc, en même temps que je suis concentré sur les patients que je vais aller voir, j'entends l'aumônier qui récite ses litanies.
Vous êtes croyant, vous ?
Oh non. J'ai été croyant, mais je le suis plus. En tout cas, ça a constitué le socle de mes valeurs, ça c'est clair. C'est clair. Mon père était au Parti communiste et ma mère était une catholique pratiquante. Et donc j'ai dû également mettre en tension ces deux valeurs familiales. C'est peut-être cela qui m'a appris à être un peu équilibriste dans un hôpital, parce que du coup, introduire les soins palliatifs dans cet hôpital moderne, c'était un peu faire l'équilibriste, ça c'est clair.
Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, vos parents ?
Mon père était ouvrier dans une tannerie. Et donc, en fait, c'est surtout à mon instituteur que je dois d'avoir fait des études, en tout cas de rentrer en sixième. Je me souviens, il est venu à la maison avec un dossier à remplir pour avoir une bourse. Et ma mère, elle voulait sortir du ruisseau, comme elle disait. Et donc, elle a soutenu l'instituteur. Et donc, c'est pas mon père qui a contribué à ce que je fasse des études, c'est mon instituteur. Voilà, et j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour entrer en sixième, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour faire ma médecine. Je fais partie de ceux qui ont pu faire des études grâce au soutien de la nation. Mais il y avait une tradition en médecine, c'était qu'on était médecin de père en fils. Et donc, moi, j'étais le vilain petit canard dans ce troupeau. Et donc, j'ai toujours été assez mal à l'aise dans le monde médical, parce que c'est une communauté dans laquelle je ne me sentais pas du tout appartenir, quoi. Donc, j'étais dedans et en dehors, quoi. Un pied dedans, un pied en dehors. Donc, parfois, quand j'assiste à des conversations entre médecins, je ne me reconnais pas du tout. Mais pas du tout.
C'est-à-dire ?
Ben, on sent des discussions de caste. Or, moi, j'appartiens pas à cette caste-là. Puis j'ai d'autres souvenirs très désagréables de la médecine. À l'âge de 5 ans, il y a un médecin en ORL, un gros bonhomme, avec son tablier blanc, qui m'a arraché les amygdales sans aucune anesthésie. L'horreur, hein, j'avais le sang qui coulait dans la bouche. Je suis capable de faire un film sur cette scène, sur cette séquence. Hein. J'ai tout mémorisé, même le goût du sang dans la bouche me revient en mémoire. Et donc, là aussi, il y avait... De ce souvenir, j'avais probablement des comptes à régler avec une certaine pratique de la médecine. On va rentrer en oncologie. Alors, c'est un service dans lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, c'est un service qui accueille des patients cancéreux. Donc, il y en a qui viennent pour des chimiothérapies. Et puis qui reçoit aussi des patients en fin de vie. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ?
Bonjour.
Je fais ma dernière tournée aujourd'hui.
Voilà. Dernière tournée avant ?
Avant de partir.
Avant, partir où ?
À la retraite.
Ah ouais.
Voilà, donc madame est diététicienne. Elle partage les locaux. Bonjour. Avec moi. Et puis c'est tout plein aujourd'hui là ?
Ouais.
Il y a des médecins qui sont là ?
Oui, docteur Thibault.
Bah, je vais le saluer alors.
Bonjour.
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 Mon cher Jean-Marie, bonjour, je viens te saluer. Donc lui, c'est un cancérologue, un pur et dur, avec qui j'ai travaillé pendant ces dernières années.
Bon.
Voilà.
T'es en civil aujourd'hui ?
Bah oui, c'est ma dernière tournée.
C'est ta dernière tournée ?
Ouais.
Eh oui. Bah, je te dis merde.
Ouais.
Voilà, je peux rien te dire d'autre.
Peut-être que tu me reverras, mais dans un lit.
Oui, moi j'espère pas. Enfin, je suis pas si loin que ça. Hein. J'ai encore 12 ans à faire, mais.
12 ?
Ouais.
12 ans ?
Bah oui, nous c'est 67 ans.
C'est long.
Je suis dans la génération qui va partir à 67.
Ah oui, là c'est dur.
Est-ce que vous avez quel âge ?
Moi j'ai 62. J'ai 62 ans. Enfin, je vais les avoir là prochainement, au mois de septembre.
Et puis parti trois ans avant la fin, pourquoi ?
Non, je ne suis pas parti 3 ans. En fait, j'ai fait mon nombre de trimestres et je peux partir. J'aurais pu rester, mais je peux partir. Et en fait, j'ai préféré partir parce que l'avenir de l'hôpital étant ce qu'il est, des inquiétudes.
La vie devient de plus en plus dure dans les hôpitaux. Oui,
des inquiétudes.
Tout est fait pour dégoûter les médecins de travailler dans l'hôpital. Ils rendent la vie impossible.
Ouais. C'est ce que tu penses ?
Oui. Je pense qu'ils nous rendent la vie impossible.
T'as senti les choses évoluer ces dernières années quand même sur la manière de travailler, quoi.
C'est terrible. Voilà, bah écoute, bonne chance, tu vas nous manquer.
Bonnes vacances à toi.
Au revoir, à toi aussi.
Voilà. À la fois, je suis content de partir parce que j'ai travaillé pendant, ça va faire plus de 35 ans. Je suis fatigué. Fatigué parce qu'il y a des choses qu'on aimerait voir changer plus rapidement que ça. Et puis, ça ne change pas assez vite à notre goût. Donc je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de faire autre chose, mais probablement que les patients vont me manquer, donc c'est pour ça que dans 6 mois, j'ouvrirai une consultation pour continuer à garder le contact avec les patients, parce que c'est ça qui va me manquer. Ce que je ne vais pas regretter, c'est l'évolution de l'institution, hein, de l'hôpital. Là les rapports se sont radicalement modifiés, les attentes de l'administration en termes gestionnaires se sont aggravées ces dernières années. J'ai pas envie de travailler dans un hôpital où sans arrêt je dois rendre des comptes, où je dois comptabiliser sans cesse mes actes. Là par exemple, voyez, là je perds mon temps, je fais perdre de l'argent à l'hôpital, quoi. Ça c'est absolument, c'est insupportable. Ça c'est insupportable. Et j'ai une fille de 9 ans là, qui commence à me poser les questions sur ce qu'elle va faire plus tard. Je ne l'encourage pas à faire ce métier parce que le salaire des médecins hospitaliers, je prends les médecins hospitaliers, a considérablement baissé.
Vous, en fin de carrière, vous partez, vous gagnez combien ?
Actuellement, mon salaire de fin de carrière, il est à 6 500 € par mois, ce qui est un bon salaire pour un praticien en fin de carrière. Mais les plus jeunes qui arrivent ne vont pas connaître cette situation. Mais c'est un métier difficile. Hein. Si je me souviens mes années d'anesthésie-réanimation, les gardes que je passais le week-end entier à travailler à l'hôpital, à travailler la nuit, et je reprenais le travail le lundi matin. Voilà, ça c'est des... Donc c'est ça qui est usant. Et puis, tous ces patients qu'on a accompagnés et qui sont morts, l'engagement dans ces relations avec ces patients et ces familles, c'est lourd à porter aussi. Psychologiquement, c'est lourd.
Ça a changé votre rapport à la mort ?
Non, non, parce que moi j'ai toujours peur de la mort. Et en fait, j'ai pas été attiré par la mort, moi, pour faire ce métier. Ce qui m'a attiré, c'était comment faire pour que, avant de mourir, on galère moins, quoi. On galère moins. Donc on sait que quand un patient est tout seul, qu'il ne communique plus avec sa famille et qu'il est douloureux, il en chie beaucoup plus que celui qui a un contact, qui est soutenu par sa famille et qui n'est pas douloureux. Donc c'était tout cet amont qu'il fallait revoir. Après, la question de la mort, ça c'est libre à chacun. Enfin libre, on fait ce qu'on peut. L'objectif n'étant pas de bien mourir, parce que pour moi c'est une illusion, chacun meurt comme il peut après. Voilà, ça c'est mon bureau. Voilà, donc vous voyez, j'ai ça qui part à la poubelle.
Tout ça, hein, tous ces dossiers.
Tout ça. Des archives. Ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, on se demande pourquoi on accumule pour les jeter 20 ans plus tard.
Et les objets personnels, vous avez...
Ah, j'ai tout embarqué. Mes objets personnels, tout est parti. Ce qui reste ici, ça appartient à l'hôpital.
Ça, c'est votre blouse,
ça ? Ça, c'est ma blouse, oui. La blouse, je vais l'emmener. Je ferme la porte du bureau et je vais rendre la clé. Voilà. Symboliquement, c'est la carte qui permet d'ouvrir le service. Donc, il n'y a plus de raison que je la garde. Laure, je vous rends la carte.
D'accord, ok, merci.
Voilà. Très bien.
Bon.
À la
Allez,
prochaine.
Bah je vais, ma femme m'attend là, on va aller manger dehors.
Bonne journée.
À vous aussi.
Merci.
Au revoir.
Bon, et alors, vous savez un peu ce que vous allez faire de la suite, là ?
Ben, je vais tout de suite partir en vacances à la montagne. Je vais m'aérer. Marcher en montagne, c'est ce qui me permet de réfléchir, ce qui me permet de me reposer, de me vider la tête, de me désangoisser à travers l'effort physique. Voilà. Je pars avec ma fille et ma petite fille. On va aller découvrir les chamois, la vie dans la montagne. Voilà, c'est un autre rythme. C'est un autre lieu, c'est clair. Mais j'adore cet endroit. C'est un endroit où j'aimerais y mourir.
Voilà, c'est un peu la fin, là.
Oui, c'est la fin. Je vais aller manger. Il fait beau. C'est... Voilà, là, on est dans la cité, là. Les insouciances des gens, les touristes. C'est incroyable de voir la proximité à un hôpital où il y a des gens qui vivent et qui meurent. Et puis là, tout de suite à côté, sur la place, la vie qui bouge. Et moi, j'ai toujours été dans la vie. Et je disais toujours, faire des soins palliatifs, c'est d'abord s'occuper de ceux qui sont en vie. Ils sont malades, qui vont mourir, mais ils sont en vie. Donc voilà. C'est pas la mort qui m'intéresse, c'est la vie qu'il y a.
Si moustache soigne la vie des fleurs, moi je soigne la vie des gens. Pour les hommes, c'est comme pour les fleurs, pour bien les soigner, il faut beaucoup.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, à la fois la première et la dernière de Jean-Michel. Reportage à Maurice Chardot, réalisé par Lionel Quentin, au mixage Sylvain d'Angoise, et l'attaché de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à Jean-Michel, bien sûr, aux membres de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel Dieu, ainsi qu'à Julie Poulet, qui s'occupe de la com de cet hôpital. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, vos témoignages, des histoires que vous avez envie de nous raconter, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Sur ce site également, vous pouvez réécouter notre émission autant de fois que vous le souhaitez. Je crois que vous pouvez même la réécouter pendant 1000 jours et également vous abonner à notre podcast. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Voilà, en attendant toutes ces réjouissantes perspectives, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture. Et je vous dis à demain, 14h30, Les Pieds sur Terre, quartier d'été. À quoi ressemble le dernier jour ? Ce sera la suite.